Le but marqué à 2 minutes 22 par Christina Dimitriou. Avec l'aide de Sébastiano Brunet, Lucie Beaulieu, Tarek Malki, Jenny Agostino, Edith Chen, Emmanuel Jean-Pierre.
Au hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers Remax, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Martin McGoyeux et Danny Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado Bon Match.
C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Alors, premier sujet pour les commissaires ce matin, la sortie de François Legault hier qui a dit aux employeurs, pas de problème, vous avez le droit d'obliger vos employés à être vaccinés. Le ministre Jean Boulay est arrivé en levant la main, c'est pas tout à fait ça. Et avec Maître Gravel ce matin, en droit du travail, on a aussi nuancé. Bon, mais est-ce que sur le fond, il a raison de dire ça ou est-ce qu'il va trop loin?
Et sur le plan politique, tout d'abord, hier, j'ai eu l'impression d'assister à un match de la LNI, la Ligue nationale d'improvisation. Tu sais, improvisation mixte ayant pour thème la vaccination obligatoire, là. Honnêtement, j'ai rarement vu un ministre rappeler à l'ordre le premier ministre. Généralement, c'est le premier ministre qui rappelle à l'ordre ses ministres. Première observation. Deuxième observation, j'ai trouvé que François Legault allait loin hier, très, très loin. Je suis pas certaine que sur le plan du droit du travail, un employeur peut obliger ses employés à se vacciner. Il y a probablement des nuances, comme tu l'as dit. Mais lorsque j'ai entendu le premier ministre, je me suis dit, ah, M. Legault, sur quoi va vous appuyer pour faire une telle affirmation? Est-ce que vous avez un avis juridique est-ce que vous avez commandé un avis juridique comme premier ministre? Est-ce que le conseil exécutif, votre ministère, a commandé un avis juridique vous permettant de dire ce que vous dites? Ça, c'est une chose sur le plan politique. Cependant, sachant qu'il y a plusieurs employés qui sont stressés de revenir au travail par rapport au fait que est-ce que mon collègue est ou non vacciné, son message a probablement eu un certain écho. Mais il y a une différence entre la politique et l'aspect juridique par rapport à la déclaration qu'il a faite.
Ceci dit, il y a des entreprises, puis il y a des villes, puis il y a des gouvernements qui obligent la vaccination. Comme la ville de San Francisco, tous ses employés doivent être vaccinés. Dieu sait qu'aux États-Unis, tu veux faire des poursuites sur rien, sur tout et sur rien. Fait que si San Francisco prend cette décision-là, j'imagine qu'il y a un soutien juridique. Moi, ce que j'ai pu comprendre, puis je suis pas un juriste, c'est qu'il y avait deux éléments. Il y avait le droit au travail, donc le droit à la subsistance, puis l'autre, c'est accepter ou refuser les soins de santé. C'est un droit fondamental. D'ailleurs, qui est lié au droit de l'aide à mourir, comme j'avais dit l'autre fois. Mais, même si tu peux pas l'obliger, ce que tu peux faire, c'est mettre des pénalités. Tu peux dire que si tu te fais pas vacciner, la pénalité va être énorme. On va te déplacer de poste, tu vas être sans solde, des choses comme ça. Et il y a des entreprises comme Air Canada qui a décidé que tous les employés seraient vaccinés et les pénalités là sont énormes. Je pense que c'est hors de l'emploi là, sans solde. Mais Air Canada, ça me surprend parce que puis je vais revenir pourquoi ça me surprend. D'abord, je vais spécifier un truc. La raison pour laquelle tu dois pouvoir forcer certains employés, c'est si l'impact est énorme. Si l'impact, par exemple, les soins de santé, on s'entend, contact rapproché, 15 minutes et plus, dans un local fermé, l'impact est énorme. Cinéma, soins esthétiques, t'es dans un local fermé, t'as un contact rapproché, on peut penser que t'as la possibilité. Mais demander à un comptable dans une compagnie d'assurance qui travaille au troisième sous-sol en bas, non, ça, il y aurait aucune justification juridique.
Mais prenons un exemple là, qui est assez contemporain, là, les universités. Un paquet d'universités à travers le Canada impose la vaccination aux employés et aux étudiants.
Ben écoute, ils sont dans une salle de parfois...
Mais McGill le fait pas, l'Université de Montréal le fait pas, les universités au Québec, là, j'en connais pas une seule.
Moi, je pense qu'il y a un soutien juridique pour obliger la vaccination dans le cas d'une université où tu as un professeur non vacciné face à peut-être une centaine d'étudiants dans un local fermé. Il y a un soutien juridique pour ça, là. Tu peux prétendre cette personne-là pose un danger à la santé des étudiants.
Mais l'argument évoqué par Jean Boulay hier, c'est les chartes. Effectivement, si vous allez à l'article 16 de la Charte québécoise, tu peux pas être discriminé au travail. Sur le motif que tu ne souhaites pas être vacciné. C'est ma compréhension des choses. Maintenant, il y a toutes sortes de cas de figure qui vont apparaître. Puis moi, je pense que le gouvernement, ce n'est pas le rôle du gouvernement de régler tous ces cas particuliers. Il faut laisser de la latitude aux employeurs sur le terrain. Puis il y a quand même... tu l'as dit, Luc, il y a des balises qui peuvent guider un employeur. Tu es en contact avec la clientèle, tu l'as dit, tu évolues dans un espace fermé.
Tu sais, Air Canada, ça m'a surpris parce que ça m'a amusé. Parce que Air Canada, pendant la pandémie, avait dit, aucun danger, tu peux prendre l'avion, puis pas de problème. Nous autres, on, à cause du nombre de fois où on change l'air par heure, c'est dans les avions, ça change tout le temps, pas de problème. Et là, il n'y a pas de danger, avec des masques. Et là, pour forcer les employés à se faire vacciner. C'est très dangereux.
Mais oublie pas, t'es, on est dans un autre monde avec le variant Delta.
C'est vrai, t'as raison.
C'est une donnée importante. Oui, tout à fait. Mais hier, c'était vraiment... Puis hier, ce qui m'a aussi frappé, c'est la perception d'un autre message incohérent du gouvernement qui est envoyé. Puis on s'entend, si un reproche qu'on peut faire à ce gouvernement depuis le début de la pandémie, c'est d'envoyer des messages qui ne sont pas cohérents. On prend une décision de journée, on change le lendemain.
Nathalie. Paul,
et ça
au niveau
pose la question
cohérence,
de la crédibilité des décisions du gouvernement.
Ben, attends. Là-dessus, justement. moi, ça fait longtemps que je demande, c'est quoi le scénario B? Parce que je veux bien qu'on nous dise tous les jours, ah, c'est urgent, ah, le variant Delta. Oui, ben, tu sais, on est rendu à 80% de double vaccinés chez les 12 ans et plus, là. Mais non, ça laisse quand même 1,7 million de personnes qui sont pas vaccinées, puis le système de santé, puis il y a pas de fin à ce discours. Hier, est arrivé un scénario B. Le Danemark, pour la première fois, un scénario B où ils disent, nous, on met fin au passeport vaccinal.
Qui avait été implanté au mois d'avril,
oui,
je pense.
C'est vrai. Comme ça, ils ont le même taux de vaccination que nous.
Oui.
Ils ont 1000 cas par jour. Ils sont 6 millions. S'ils sont 6 millions avec 1000 cas par jour, nous, on est 8,5 millions. Ça veut dire qu'ils acceptent plus de cas par jour que nous. Ils acceptent un danger, un risque, en se disant, là, on a atteint le maximum. Moi, j'aimerais ça que le gouvernement nous dise, hey, les boys, les girls, là, l'objectif, c'est là. C'est dans 3 semaines, c'est dans 1 mois, c'est tel chiffre. Ouais. Mais quand on va l'avoir atteint...
On avait dit 75% au départ.
Là, le nouveau, c'est quoi?
Oui, mais attendez, 100. La comparaison a peut-être des limites, parce que moi, je suis pas une spécialiste du système de santé danois, mais c'est ça, la donne, c'est important, là. Le système de santé danois peut-il supporter, par exemple, 1000 cas par jour avec, je sais pas, X dizaines, centaines d'hospitalisations?
OK, ben, excellent, nous, excellent. Nathalie, à ce moment-là, qu'ils nous disent, compte tenu de notre système de santé, le chiffre, c'est ça. Puis quand on va l'avoir atteint, ce chiffre-là, on retourne à la normale. Et pas nous dire chaque jour une nouvelle contrainte, mais on ne vous dit pas quand est-ce que ça va finir.
Ah, ça, le variant sud-africain sans rien.
Ouais,
ça,
le mu.
Bon, tu vois.
Oui, mais bon, là, on disait cette semaine, oui, Jojo Savard. T'sais, on s'interrogeait sur notre automne va ressembler à quoi. Il y a à peu près personne sur la planète qui peut le dire. Tout ce qu'on essaie de faire, des fois, de façon presque un peu désespérée, c'est dire qu'on en ajoute une couche pour se prémunir ou pour éviter de subir les impacts du variant Delta.
Moi, en termes de motivation, là.
Oui.
En termes de, faut
mais tu sens motivé encore,
ben oui, non? Mais il faut qu'il y ait un résultat. Si chaque jour, si tu n'atteins pas ton objectif, tu as une claque, c'est correct. Mais à un moment donné, tu dis, OK, c'est correct, là, je suis rendu à 16 claques par jour, mais là, c'est quand que ça finit?
Tu parles comme un complotiste!
Non, pas du tout, j'y crois. Je veux juste avoir une information raisonnée sur notre système de santé, le nombre de cas qu'on peut se permettre par jour, le nombre de vaccins qu'on peut honnêtement atteindre par jour, parce qu'à 80% de double vaccinés sur les 12 ans et plus, c'est jusqu'à où qu'on peut aller.
Mais ça revient à ta question est intéressante, parce que dans le fond, quel exercice de modélisation la santé publique a fait?
Ben oui,
parce que le scénario optimiste, pessimiste, réaliste, j'imagine qu'il doit y avoir quelqu'un dans la centaine de spécialistes à la santé publique qui essaie de se projeter dans le temps en disant si la tendance se maintient, comme disait Bernard de Rome, en décembre, on va être où? En octobre, on va être où? En janvier 2022, on va être où?
C'est que quand on leur pose la question, c'est toujours la même réponse. Puis une réponse que j'ai appréciée tout le long, là, de dire c'est grave, c'est de plus en plus grave, puis il faut de plus en plus se protéger. Correct. Mais là, on a un pays qui dit le contraire. Puis c'est pas des tartes, là. C'est pas
des tartelettes.
Oui. Ah, des tartelettes,
non,
on cherchait
attends,
plutôt...
Attends, pourquoi tu dis le pays dit le contraire?
Le Danemark, ils ont dit, nous autres, on arrête là. On pense qu'ils ont 73% de double vaccinés, 0 100
ans. Mais c'est un risque qu'ils prennent, probablement un risque calculé.
Mais voilà, c'est un risque, mais ils se disent, on va le suivre. Puis leurs frontières sont ouvertes avec le reste de l'Europe. Mais voici où on pense ce qu'on pouvait atteindre, on l'a atteint. Et à partir de là, on va le suivre. Et j'aimerais ça que la santé publique nous dise pareil pour le Québec. Nous autres, vous êtes à 80% à double vacciné 12 ans et plus. Si on atteint X%, Mais je pense que là, on a atteint le maximum.
Mais moi, j'achète ça comme argument. Honnêtement, je vote pour toi ce matin.
Merci.
On va prendre un autre vote après la pause. Ouais. Et est-ce qu'on a besoin d'une loi ou d'une directive gouvernementale pour encadrer la liberté à l'université? Juste une parenthèse, il y a un étudiant de cégep qui m'a écrit, c'est hier, pour m'expliquer que, premier cours, son prof de philo est un complotiste.
Oups.
Et il a pris le cours presque au complet pour étaler toutes les théories en classe puis tout ça. Mais là, je pense qu'il y a des étudiants qui vont les porter plainte, parce que, mettons que...
C'est fou comme le programme permet des écarts importants en philo. Hein?
Philo, oui.
C'est
incroyable,
quand
c'est...
tu peux enseigner n'importe quoi.
Sous prétexte de la liberté d'expression, ouais. Effectivement.
On va en discuter tantôt.
La commission Normando-Ferrandaise.
Pour tenir tel propos, parce que, bon, tout ce qu'on appelait les « woke », qui apparaissent. Et là, il y a ce groupe de travail qui doit faire une recommandation. Autrement dit, la question, c'est est-ce que le gouvernement doit se mêler et donc encadrer la liberté d'enseignement à l'université?
Moi, je pense que non, parce que les universités ont tous les moyens pour le faire eux-mêmes. Puis que de faire une loi, elle sera jamais assez précise. C'est aux universités de mettre leurs culottes, leurs bretelles, leurs ceintures, puis d'affronter un peu, tu sais, pour l'instant, ce qu'on a vu dans les médias, mais je suis sûr qu'il y a plein de cas qu'on n'a pas vu puis qui étaient bien mieux gérés. C'était des cas où l'université cédait trop rapidement sur des demandes qu'on jugeait exagérées, comme un professeur qui a mentionné un mot, puis qu'on demande ce qu'il soit suspendu, puis elle est effectivement suspendue sans solde pendant une certaine période de temps. Donc, et là, on sait que des professeurs faisant face à ce risque-là décident de ne plus enseigner telle chose ou telle chose. Alors, oui, c'est un mouvement de turbulence, mais c'est un mouvement qui va se régler. Moi, ce qui m'a frappé dans toute cette affaire-là, c'est que pendant, tu sais, des universités, ça a toujours été des lieux de discussion, des lieux de manifestation, des lieux de révolte même. Tu sais, la révolte mai 68 en France, ça a commencé par les étudiants. La fin de la guerre au Vietnam, ça a commencé par les étudiants. Les universités sont hyper contrôlées dans tous les pays totalitaires parce qu'ils savent que c'est de là que peut venir la grogne. C'est commencé à Hong Kong. C'est souvent les manifestations ont commencé dans les universités par les étudiants. Alors, c'est normal que ça brasse dans les universités. Ce qui n'est jamais arrivé, par contre, sauf sous le macartisme dans des régimes hyper religieux, ce qui n'est jamais arrivé, c'est qu'on empêche des professeurs de parler ou de dire ce qu'ils avaient à dire parce que des étudiants sont fâchés sur l'utilisation de ce mot-là ou de ce concept-là ou de ce ça arrive pas là. Tu sais, je veux dire, il y a des manifestations des fois, par exemple, tu vois ça, des étudiants qui ne veulent pas que telle personne se présente à l'université, un conférencier, parce qu'il a tenu des propos antisémites ou tel autre parce qu'il a fait des conférences pro-Palestine. Ça arrive, mais qu'on demande le renvoi d'un professeur parce qu'il a tenu certains propos. Ça, c'est du nouveau.
Ben moi, je suis comme Luc, ni loi, ni directive. Faut se rappeler la réaction de la ministre Danielle McCann à l'époque. En fait, je pense que la ministre a été incapable de prendre la chaleur. Lorsque le débat sur le fameux mot en haine, puis toute la saga autour du professeur lieutenant Duval à Ottawa a émergé, tout de suite, elle s'est empressée de mandater un comité de sages présidé par Alexandre Cloutier, l'ancien député. En fait, c'est typiquement politique, là. Tu sais, tu es incapable de prendre la chaleur. Fait que pour gagner du temps, tu mandates un comité. Il va te faire des recommandations. C'est ça. C'est le scénario classique en politique. Nos universités ne doivent pas devenir des lieux aseptisés sur le plan des débats. Si le gouvernement s'immisce ou donne des balises aux universités pour encadrer ce qu'on appelle la liberté universitaire, c'est se mettre le doigt dans la main dans le tordeur, c'est ouvrir une boîte de Pandore. Les universités ont déjà adopté des énoncés institutionnels sur la protection, la valorisation de la liberté d'expression. Université Laval, même chose à l'Université de Montréal. L'enjeu actuellement, tant qu'à moi, il y a la liberté, évidemment, universitaire qui sous-tend la liberté d'expression avec elle, l'autonomie de nos universités. C'est l'ADN de nos universités, la liberté académique. Il faut pas mettre la hache là-dedans. Deuxièmement, c'est le statut précaire des chargés de cours, par exemple. Parce qu'on apprenait cette semaine que certains s'auto-censurent. S'auto-censurent pourquoi? Parce qu'ils ont peur de perdre leur job si un étudiant vient se plaindre. Un chargé de cours, par exemple, à l'Université Laval en géographie, 30 ans, ça fait 30 ans qu'il est chargé de cours, puis il a encore un statut précaire. Excusez-moi, là, on a un méchant problème. Ça, il me semble que c'est le rôle d'une ministre responsable de l'enseignement supérieur. Et l'autre chose, quand je vois des universités comme celle de l'Université d'Ottawa abandonner littéralement un de leurs professeurs...
Et McGill.
Moi, je me dis non seulement c'est inquiétant, c'est un scandale, mais ça traduit la faiblesse de ces institutions.
Ben oui, c'est ça. Moi, là, regarde, achète-toi un soute en amiante puis fais face à la chaleur.
Voilà.
À un moment donné, là...
Non, mais écoute, parce qu'université, c'est plus qu'un lieu physique où tu vas suivre des cours.
Bien sûr.
C'est une institution qui fait partie de notre démocratie. Et si on attaque la liberté académique, on s'en prend à notre démocratie. Et il y a encore de la place dans notre société pour le choc des idées.
Mais c'est étonnant que l'attaque contre la liberté arrive d'étudiants. Moi, ce que je veux dire par
non,
là...
Non, mais Paul, tu l'as dit, c'est une minorité.
Non, la minorité se fait entendre puis se fait cautionner.
Mais moi, je suis persuadé que c'est pas ce ne sont pas des arguments scientifiques ou techniques ou historiques.
C'est idéologique.
C'est de la colère. C'est juste de la colère.
Idéologique aussi.
Oui, mais d'accord, mais la colère est justifiée. La colère, là, t'as le droit à la colère. Quand les Américains criaient, quand les Français criaient non à l'État colonialiste ou que les Américains criaient non à l'impérialisme militaire américain, puis il faut mettre fin au budget de la défense américaine, c'est de la colère. Ça se produira jamais. Mais ils ont le droit de l'exprimer, mais à l'université de réagir, par contre.
Ils ont le droit tu peux exprimer ta colère de toutes sortes de façons, Luc. Tu peux aller manifester dans les rues, tu peux faire du vandalisme, mais eux, ils ont décidé, les woke, comme on les appelle, de s'en prendre personnellement au professeur, de l'intimider à un tel point que certains, ont fait des dépressions, des burn-out. C'est Christian Dubé qui disait par rapport à la vaccination et au passeport pour justifier l'adoption de ce type de mesures, on ne va pas laisser une minorité contrôler, prendre en otage une majorité. Je trouve que ça s'applique très bien à nos universités. Puis que la ministre évite de se mêler d'un dossier qui ne la regarde pas. Par contre, les professeurs, les syndicats d'enseignants et de chargés de cours disent au contraire, eux, par rapport aux recteurs, non, il y a un réel problème. Mais il y a un réel problème parce que les universités sont incapables de supporter, d'accompagner correctement leurs chargés de cours face à l'intimidation qu'ils subissent de la part de certains étudiants.
Effectivement, mais c'est aux universités de le faire. Donc,
Mais
t'as raison. Un professeur qui fait face à une harangue, à la harangue d'un groupe déterminé à te ruiner la santé, cours après cours, puis à parler de toi dans le journal d'étudiants, puis etc.
Les réseaux sociaux,
puis de mettre ton adresse puis ton numéro de téléphone sur les réseaux sociaux. Ce professeur-là, il est fragile, puis il fait face à quelque chose à laquelle il n'a jamais fait face. Et c'est extrêmement difficile. Si en plus l'université ne le défend pas, ben là, c'est la fin des haricots. Alors, oui, il faut que l'université le défende sur la base du droit que tu as évoqué, d'une démocratie, de la nécessité d'un échange. Ceci étant dit, pendant des années, les universités ont protégé des professeurs qui faisaient du harcèlement, qui étaient incompétents, qui véhiculaient des messages ridicules. Tantôt, t'as évoqué le complotisme. Alors, pendant des années, les universités les ont protégés. Fait qu'à un moment donné, les étudiants se sont organisés et là, les universités ont accepté les critiques des étudiants puis ils disent, si t'as été harcelé, si t'as été insulté, ben on va le prendre en considération, on va mettre un comité d'études. Et c'est par ce passage-là que passent maintenant certains woke en disant, lorsqu'elle a prononcé le mot, j'ai perdu mes moyens, j'étais plus capable d'étudier, je n'étais plus capable de réfléchir, j'ai pensé à quitter le cours, je me suis senti mal. C'est ce chemin-là qui est utilisé. Et là, c'est là que l'université doit colmater cette brèche.
Merci. On vous retrouve demain.
C'est 23.